Fumée, chapitre 9. Litvinov ne tint pas sa promesse de passer plus tard. Il lui sembla qu'il valait mieux ajourner sa visite. En entrant, le lendemain vers midi, dans le salon qui lui était si connu, il n'y trouva que les deux petites, Victorine et Cléopâtre. Après les avoir embrassées, il leur demanda si Irène Pavlovna allait mieux et si on pouvait la voir. « Irinoshka est sortie avec maman, » répondit Victorine, qui, bien que zézayant, était la plus hardie. « Comment ? Elle est sortie ?» répéta Litvinov. Et il sentit quelque chose frémir doucement au fond de sa poitrine. « Est-ce que ce n'est pas l'heure où elle s'occupe de vous, où elle vous donne des leçons ?»«
Irinoshka ne nous donnera plus de leçons, » répondit Victorine.
« Elle ne nous en donnera plus, » répéta après elle Cléopâtre. « Et votre père est-il à la maison ?» demanda Litvinov.
« Papa n'est pas à la maison, et Irinoshka est malade. Toute la nuit, elle a pleuré. »«
Elle a pleuré ?»«
Oui, elle a pleuré. Yegorovna me l'a dit, et ses yeux sont si rouges, si gonflés. »
Litvinov fit deux fois le tour de la chambre en grelottant comme s'il avait froid, et il rentra chez lui. Il éprouvait une sensation semblable à celle qui saisit l'homme regardant du sommet d'une haute tour. Il sentait comme un vertige, un étonnement hébété, un fourmillement de vilaines petites pensées, une terreur confuse, une attente muette, de la curiosité, une curiosité étrange, presque maligne, et dans la gorge, l'amertume de larmes qui ne peuvent pas couler. Sur les lèvres, l'ébauche d'un sourire ironique et des supplications stupides, lâches, qui ne s'adressaient à personne. Oh, comme tout cela était cruel, humiliant! « Irène ne veut pas me voir, » ne cessait-il de se répéter. « C'est évident, mais pourquoi cela ? Qu'est-ce qui a pu se passer à ce maudit bal ? Comment peut-on changer ainsi tout à coup, si subitement ? » Les hommes voient tous les jours la mort venir à l'improviste, mais ne peuvent s'accoutumer à cette soudaineté et la trouvent insensée. « Ne rien me faire dire, ne pas vouloir s'expliquer avec moi !»«
Grégoire Mikhailitch !» cria une voix à son oreille.
Litvinov se retourna. Devant lui, son domestique tenait un billet à la main. Il reconnut l'écriture d'Irène. Avant même de le lire, il pressentit un malheur, courba la tête et leva ses épaules comme pour se garantir d'un coup. Il prit enfin courage et déchira l'enveloppe. Sur une petite feuille de papier à lettres se trouvait ce qui suit. « Pardonnez-moi, Grégoire Mikhailitch, tout est fini entre nous. Je vais à Pétersbourg. Je suis accablé, mais la chose est décidée. Telle était ma destinée, sans doute. Mais je ne veux pas me justifier. Mes pressentiments se sont réalisés. Pardonnez-moi. Oubliez-moi. Je ne suis pas digne de vous. Irène. Soyez généreux. Ne cherchez pas à me voir. » Litvinov lut ces lignes et tomba sur le divan, comme si une main invisible l'y avait poussé. Il laissa échapper le billet, le reprit, le relut, marmotta « À Pétersbourg !» et le laissa de nouveau échapper. Un calme étrange s'empara de lui. Il releva lentement les mains pour arranger les coussins derrière sa tête. « Ceux qui sont blessés à mort ne s'agitent plus, » pensa-t-il. « Comme elle est venue, elle s'est envolée. C'est fort naturel. » Je m'y attendais. Il mentait. Jamais il n'avait prévu pareille chose. Elle a pleuré. Pourquoi a-t-elle donc pleuré? Elle ne m'aimait pas. Tout cela d'ailleurs s'explique et s'accorde avec son caractère. Elle n'est pas digne de moi. C'est bien cela. Il sourit amèrement. Elle ignorait sa valeur. Après s'en être aperçue au bal, comment pourrait-elle songer encore à un misérable étudiant? Tout cela est compréhensible. Mais ici il se souvint de ses tendres propos, de ses sourires, de ses yeux qu'on ne pouvait oublier, qu'il ne verrait plus jamais, qui étincelaient et s'épanouissaient en rencontrant les siens. Il se souvint encore du seul baiser furtif qu'il avait reçu, et il éclata en sanglots convulsifs, égaré, furieux. Il se retourna, et, suffoquant, se cogna la tête avec un plaisir farouche, comme s'il avait voulu se détruire lui-même et détruire tout ce qui l'entourait. Il enfonça son visage enflammé dans le coussin du divan et le mordit. Hélas, ce monsieur que Litvinov avait vu la veille en coupé était précisément le parent de la princesse Osinine, l'homme très riche, le chambellan, le comte Reisenbach. Frappé de l'impression qu'Irène avait produite en haut lieu, saisissant d'un coup d'œil les avantages qu'il pourrait en retirer, mit tête-voix à sa curatesse, le comte, en homme énergique et sachant manœuvrer, dressa sans perdre de temps ses batteries. Il se décida à agir rapidement, tel un Napoléon. « Je prendrai chez moi, se dit-il, cette singulière jeune fille. Quand le diable y serait, je la ferai mon héritière, au moins d'une partie de mes biens. Je n'ai pas d'enfant, elle est ma nièce, et la comtesse s'ennuie d'être seule. Il est toujours agréable d'avoir au salon un gentil visage. Oui, oui, c'est cela. Es ist eine Idee. Il fallait éblouir, séduire les parents. Ils n'ont pas de quoi manger, continua le comte, déjà assis dans sa voiture et se dirigeant vers la place aux chiens. Pas de danger qu'ils s'entêtent. Ils ne sont pas si sensibles. S'il le faut, on peut donner de l'argent. Et elle? Elle consentira. Le miel est doux. Elle en a goûté hier. Supposons que ce soit un caprice de ma part. Qu'ils en profitent, les imbéciles. Je leur dirai, décidez-vous, ou bien j'en prendrai une autre, une orpheline qui me conviendra mieux. Oui ou non, je ne vous donne que 24 heures. Hunt amid punctum. C'est avec ces arguments que le comte se présenta au prince, informé dès la veille de sa visite. Inutile de s'étendre sur le résultat qu'elle eut. Le comte ne s'était pas trompé dans ses calculs. Le prince et la princesse ne s'obstinèrent pas, acceptèrent de l'argent, et Irène donna son consentement avant que les 24 heures fussent écoulées. Il ne lui fut pas facile d'accepter sa rupture avec Litvinov, qu'elle avait aimé. Il s'en fallut de peu qu'elle ne s'alitât après lui avoir envoyé son billet. Elle versa beaucoup de larmes, maigrie, jaunie. Mais un mois plus tard, la princesse la conduisit à Pétersbourg et l'installa chez le comte, la recommandant aux bons soins de la comtesse, femme excellente, mais qui n'avait pas plus de force et d'esprit qu'un poulet. Litvinov quitta l'université pour aller chez son père à la campagne. Petit à petit, sa blessure se cicatrisa. Il n'eut d'abord aucune nouvelle d'Irène. Il évitait de parler de Pétersbourg et de sa vie mondaine. Cependant, des bruits ne tardèrent pas à parvenir jusqu'à lui. Ils étaient moins fâcheux qu'étranges. Irène avait acquis de la renommée. Entourée d'éclat, marquée d'un cachet particulier, son nom était de plus en plus répandu, jusque dans les cercles de province. On le prononçait avec curiosité, avec envie, voire avec respect, comme on prononçait naguère le nom de la comtesse Vorotinsky. Vint enfin la nouvelle de son mariage. Mais Litvinov y fit à peine attention. Il était déjà fiancé à Tatiana. Le lecteur doit comprendre maintenant tout ce qui revint à la mémoire de Litvinov lorsqu'il s'écria « Ce n'est pas possible !» Nous allons donc revenir à Baden et reprendre le fil interrompu de notre récit. Chapitre 10. Litvinov s'endormit fort tard et ne se reposa guère. Il se leva avec le soleil. Le faîte des sombres montagnes qu'on apercevait depuis ses fenêtres se dessinait sur un ciel azuré.
Comme il doit faire frais sous ces arbres, pensa-t-il. Il s'habilla promptement, jeta un coup d'œil distrait sur le bouquet qui avait profité de la nuit pour s'épanouir, prit sa canne et se dirigea vers le vieux château. Enveloppé de la douce caresse de l'air matinal, il respirait à son aise, s'avançait d'un bon pas. La santé de la jeunesse courait dans chacune de ses veines, et la terre elle-même semblait rebondir sous ses pieds. Chaque pas le rendait plus alerte et plus gai. Il marchait à l'ombre, sur le sable d'une petite allée, le long des sapins dont les branches s'ornaient du vert tendre des pousses printanières. « Tout cela est délicieux !» s'écriait-il parfois. Il entendit soudain le son de voix qui lui était connu, et vit avancer Voroshilov avec Bambaïev. Cette vue l'arrêta court. Comme un écolier voulant échapper à son maître, il se jeta de côté et se cacha derrière un buisson. « Mon Dieu ! » ne put-il s'empêcher de dire, « protégez-moi de mes compatriotes !» Il aurait donné tout l'argent du monde en ce moment pour qu'ils ne le vissent pas. Et en effet, ils ne le virent pas. Dieu l'avait épargné. Voroshilov expliquait à Bambaïev, avec son ton prétentieux, les diverses phases de l'architecture gothique. Celui-ci se contentait de grogner approbativement. Il était visible que Voroshilov l'accablait depuis longtemps de son verbiage et que le brave enthousiaste commençait d'en être là. Litvinov demeura longtemps aux aguets, le cou tendu, se mordant les lèvres tout le temps que retentirent les sons aigus et nasillards du discours archéologique. Puis le silence revint. Litvinov respira, sortit de sa retraite et continua son chemin. Il rôda 3 heures dans les montagnes. Tantôt il quittait le sentier et sautait d'un rocher à un autre, en glissant quelquefois sur la mousse. Tantôt il s'asseyait sur un pan de roche, sous un chêne ou un hêtre, et s'abandonnait à d'agréables pensées. Bercé par l'incessant murmure d'un ruisseau caché par la fougère, par le bruissement des feuilles ou le chant sonore d'un merle. Un doux engourdissement finissait par le saisir. Des bras caressants semblaient l'enlacer furtivement. Il fermait involontairement les yeux et les rouvrait en sursaut. L'or et le vert des ramures lui apparaissaient dans un brouillard. Il lui venait un sourire, et il s'endormait de nouveau. Il eut envie de déjeuner et monta au vieux château, où, pour quelques creusères, on peut avoir un verre d'excellent lait avec du café. Mais il ne s'était pas encore établi devant une des petites tables peintes en blanc qui se trouvent sur la terrasse du château, qu'on entendit le halètement bruyant de chevaux fatigués, et qu'apparurent 3 calèches, d'où sortit une nombreuse société de dames et de messieurs. Litvinov reconnut immédiatement qu'ils étaient russes, quoiqu'ils parlassent tous français, ou plutôt parce qu'ils parlaient français. Les toilettes des dames étaient d'une exquise recherche. Les hommes avaient des redingotes noires cintrées, toutes neuves, ce qui n'est pas très ordinaire à notre époque, des pantalons gris, et des chapeaux de ville très luisants. Une cravate noire, très basse, serrait le cou de chacun de ces messieurs, dont l'allure dénotait quelque chose de militaire. C'étaient des militaires, en effet. Litvinov était tombé sur un pique-nique de jeunes généraux, gens de haute naissance et de grand poids. Leur importance se révélait en tout, dans leur désinvolture guindée, leurs sourires majestueusement affables, leurs regards distraits et affectés en même temps, leur manière de soulever les épaules, de cambrer la taille, de fléchir légèrement les genoux. Elles se révélaient jusque dans le son de leur voix, qui semblait toujours prodiguer des remerciements à des subordonnés, avec un mélange de condescendance et de dégoût. Tous ces guerriers étaient parfaitement lavés, rasés, imprégnés de je ne sais quelle odeur d'état-major et de boudoir, évoquant la fumée des meilleurs cigares et le plus authentique patchouli. Tous avaient des mains aristocratiques, blanches, longues,
des ongles polis comme de l'ivoire, des moustaches cirées, des dents brillantes, une peau fine, des reflets roses sur les joues et des mentons azurés. Les uns étaient folâtres, les autres méditatifs, mais tous étaient exquisement comme il faut. Chacun d'eux paraissait profondément convaincu de sa valeur, de l'importance de son rôle futur dans l'État. Pour le moment, une légère teinte de cette pétulance et de ce sans-souci auquel on s'abandonne naturellement en pays étranger, modifiait agréablement ce que cette conviction avait de trop définitif. Après s'être bruyamment installée, la société appela les garçons, fort embarrassés de répondre à toutes les exigences. Litvinov se dépêcha d'achever son verre de lait, le paya, et, armé de son bâton, il avait presque dépassé le pique-nique des généraux lorsqu'il fut arrêté par une voix féminine. « Grégoire Mikhaïlitch, ne me reconnaissez-vous pas ?» Il s'arrêta involontairement. Cette voix avait naguère trop souvent fait battre son cœur. Il se retourna et aperçut Irène. Elle était assise auprès d'une table, les mains appuyées sur le dos d'une chaise, la tête penchée et souriante. Elle l'examinait avec attention, presque avec joie. Litvinov la reconnut à l'instant, quoiqu'elle eût beaucoup changé depuis 10 ans qu'il ne l'avait vue, et quoique de jeune fille elle fût devenue femme. Sa fine taille s'était admirablement développée. Le contour de ses épaules, autrefois trop étroites, rappelait maintenant ces déesses sortant des nuages qu'on voit sur les plafonds des anciens palais italiens. Mais les yeux étaient restés les mêmes. Et il sembla à Litvinov qu'il le regardait comme autrefois dans la petite maison de Moscou. « Irène Pavlovna ? » répondit-il hésitant. « Vous m'avez reconnue ! Comme je suis contente ! Comme je suis... » Elle s'arrêta, rougit un peu et se redressa. « Quelle agréable rencontre ! » continua-t-elle en français. « Permettez-moi de vous faire connaissance avec mon mari. Valérien, monsieur Litvinov, un ami d'enfance. Valérien, Vladimirovitch Ratmirov, mon mari. » Un des jeunes généraux, celui qui était vêtu avec le plus de recherche, se leva et salua Litvinov avec une parfaite politesse, tandis que ses confrères, chacun à part soi, se claquemuraient pour ainsi dire dans leur dignité, pressés de protester contre tout rapprochement avec un simple Pékin, et que les autres dames du pique-nique se croyaient obligées de cligner de l'œil, de sourire, voire d'exprimer de l'étonnement. « Y a-t-il longtemps que vous êtes à Baden ?» demanda le général Ratmirov, ne sachant évidemment de quoi entretenir l'ami d'enfance de sa femme. « Il y a peu de temps, » répondit Litvinov. « Et avez-vous l'intention d'y prolonger votre séjour ?» continua l'obséquieux général. « Je ne suis pas encore décidé. »« Ah, c'est très agréable. » Le général se tut, Litvinov également. Tous deux tenaient leur chapeau à la main et se regardaient l'un l'autre à la hauteur des sourcils. « Deux gendarmes un beau dimanche !» se mit à fredonner un général, chantant faux, naturellement. « Jusqu'à présent, il ne nous a pas été donné de rencontrer un gentleman russe qui ne chanta pas faux. C'était un général myope, au teint jaunâtre, une perpétuelle expression de contrariété sur le visage, comme s'il ne pouvait se pardonner à lui-même sa physionomie. Il était le seul qui ne ressembla pas à une rose. « Mais pourquoi ne vous asseyez-vous pas, Grégoire Mikhaïlitch ?» dit enfin Irène. Litvinov s'y résigna. « I say, Valérien, give me some fire !» dit un autre général, jeune également et déjà gras, avec des yeux immobiles, fixés dans le vide, et des favoris touffus, soyeux, que des mains d'un blanc de neige caressaient lentement. Radmirov lui passa un porte-allumette en argent.
« Avez-vous des papyros ?» grasseya l'une des dames.
« De vrais papelitos, comtesse !»
Deux gendarmes, un beau dimanche, poursuivit dans un grincement de dents le général myope.
« Il faut absolument que vous veniez nous voir !» disait pendant ce temps-là Irène à Litvinov. « Nous demeurons à l'hôtel de l'Europe. Je suis toujours chez moi de 4 à 6. Il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus. »
Litvinov regarda Irène en face. Elle ne baissa pas les yeux.
« Oui, Irène Pavlovna, il y a longtemps. Depuis Moscou. »«
Depuis Moscou. Depuis Moscou. » répéta-t-elle après une pause. « Venez, nous causerons, nous parlerons de l'ancien temps. Savez-vous, Grégoire Mikhaïlitch, que vous n'avez pas beaucoup changé ?»«
Réellement, vous, Irène Pavlovna, vous avez bien changé. »«
J'ai vieilli. » »«
Je ne voulais pas dire cela. » »«
Irène ?»
fit d'un ton interrogatif une dame qui portait un chapeau jaune sur des cheveux jaunes après avoir chuchoté et ricané avec un monsieur assis à côté d'elle.
« J'ai vieilli, » continua Irène sans répondre à la dame, « mais je n'ai pas changé. Non, non, je n'ai changé en rien. »
Deux gendarmes, beau dimanche, fredonna encore l'irascible général qui ne se souvenait que du premier vers de la chanson.
« Cela picote encore, Excellence !» dit à haute voix le gras général au favori, faisant probablement allusion à quelque amusante histoire connue du beau monde. Éclatant d'un rire lourd et dur, il recommença à fixer le vide. Tout le reste de la société s'associa à sa jubilation.
« What a sad dog you are, Boris !» fit observer à demi-voix Radmirov. Il prononçait à l'anglaise jusqu'au nom de Boris.
« Irène ?» fit pour la troisième fois la dame au chapeau jaune. Irène se retourna brusquement de son côté.
« Eh bien, quoi ? Que me voulez-vous ? »
« Je vous le dirai plus tard, » répondit la dame en minaudant. Quoiqu'elle ne fût pas jolie, elle ne cessait de se donner des airs. Un mauvais plaisant avait dit qu'elle minaudait dans le vide.
Irène fronça le sourcil et haussa les épaules avec impatience.
« Mais que fait donc Monsieur Verdier? Pourquoi ne vient-il pas ?» s'écria une dame avec ses inflexions traînantes si choquantes pour les oreilles françaises qui caractérisent l'accent russe.
« Ah oui, ah oui, Monsieur Verdier, Monsieur Verdier !» gémit une autre dame, directement débarquée d'Arzamas.
« Tranquillisez-vous, mesdames !» interrompit Radmirov. « Monsieur Verdier m'a promis de venir se mettre à vos pieds.
Hi, hi, hi !» fit la dame en jouant de l'éventail. Le garçon apporta quelques verres de bière.
« Bayerisch Bier ?» demanda le général au long favori, parlant d'une voix de basse et simulant l'étonnement.
« Guten Morgen !»
Et alors, le comte Paul est-il toujours là-bas ? demanda nonchalamment un jeune général à un autre.
« Il y est encore !» répliqua celui-ci sur le même ton. « Mais c'est provisoire. Serge, dit-on, prendra sa place.
« Hein !» fit le premier entre ses dents.
« Mais oui !» murmura le second.
« Je ne puis comprendre, » commença le général à la chansonnette, « quel besoin avait Paul de se justifier, d'expliquer ses raisons. Il a pressuré un marchand. Il lui a fait rendre gorge. Eh bien, qu'est-ce que cela ? Il pouvait avoir ses motifs. »
« Il a eu peur d'une campagne de presse, » grommela quelqu'un.
L'irascible général s'enflamma soudain.
« C'est le dernier de mes soucis !» « Les journaux, la critique. Si cela dépendait de moi, j'imposerais à vos journaux de ne publier que le montant de la taxe de la viande ou sur le pain, et les petites annonces pour vendre des pelisses et des bottes. » sans oublier d'y faire paraître l'adjudication des terres des nobles vendues à l'encan, ajouta Ratmirov. Je vous en prie, dans de telles circonstances. Mais, messieurs, quelle conversation! À Baden, au vieux château!
Mais pas du tout, pas du tout, dit la dame au chapeau jaune. J'adore les questions politiques.
Madame a raison, remarqua un autre général, au visage avenant et au teint de jeune fille. Pourquoi éviterions-nous ces questions, quand bien même nous serions à Baden?
En prononçant ces paroles, il se tourna poliment du côté de Litvinov, avec un sourire de condescendance.
Jamais, et en nulle circonstance, un homme véritable ne doit sacrifier ses convictions, n'est-il pas vrai?
Certainement, répondit l'irascible général, jetant également les yeux sur Litvinov, avec sévérité, comme s'il lui adressait une semonce indirecte.
Pourtant, je ne vois pas de nécessité.
Non, non, interrompit avec la même douceur l'indulgent général. Notre ami Valérien Vladimirovitch fait allusion à la vente des biens de la noblesse.
Eh bien, n'est-ce pas une réalité?
Il est impossible de les vendre en ce moment. Personne n'en veut, s'écria l'irascible général.
Peut-être, peut-être. Raison de plus pour constater cet état de choses, ce déplorable état de choses. Nous sommes ruinés, c'est parfait. Nous sommes humiliés, c'est indiscutable. Mais nous demeurons de grands propriétaires. Nous représentons un principe. Soutenir ce principe, voilà notre devoir. Pardon, madame, il me semble que vous avez laissé tomber votre mouchoir. Quand un certain aveuglement s'empare des esprits les plus élevés, des personnes les plus haut placées, nous devons signaler, avec déférence sans doute.
Ici le général étendit la main. Nous devons indiquer, d'un geste citoyen, l'abîme vers lequel tout se précipite. Nous devons avertir, crier avec une respectueuse fermeté « Revenez, revenez en arrière !» Voilà notre devoir.
Il est pourtant impossible de revenir complètement sur nos pas, remarqua d'un air rêveur Ratmirov.
Mais si, complètement, complètement, mon très cher. Plus nous irons en arrière et mieux ce sera, répliqua l'indulgent général en souriant, regardant encore avec bienveillance Litvinov. Celui-ci perdit patience.
« Nous faudrait-il donc reculer jusqu'à l'époque des boyards, mon général ? » demanda-t-il.
« Eh, pourquoi pas ? J'exprime mes opinions sans restriction. Il faut tout refaire.
Oui, refaire tout ce qui a été fait. »
« Même le 19 février ? »
« Même le 19 février, pour autant que cela est possible. On est patriote ou on ne l'est pas. »
« Et la liberté, me dira-t-on. »
Croyez-vous que cette liberté paraisse tellement douce au peuple? Interrogez-le.
Essayez de la lui ôter, dit Litvinov.
Comment nommez-vous ce monsieur? Chuchota le général à Ratmirov.
Mais sur quoi dissertez-vous? Dit tout à coup le gros général, qui jouait évidemment dans notre société le rôle d'enfant gâté.
Toujours sur les journaux? Sur les écrivassiers?
Permettez que je vous raconte là-dessus une merveilleuse anecdote, une histoire qui m'est arrivée. On m'avertit qu'un folliculaire écrivait sur moi un libelle. Je le fais venir immédiatement, sous bonne garde. On amène le pigeon.
« Tu t'amuses donc, lui dis-je, ami folliculaire, à écrire des libelles? Tu brûles donc de patriotisme ?»«
Je suis patriote, répondit-il.
« Et l'argent, lui dis-je, folliculaire, tu l'aimes ?»«
Je l'aime. » »«
Ici, messieurs, je lui mis sous le nez le pommeau de ma canne. »«
Et cela, l'aimes-tu, mon ange ?»«
Non, dit-il, je n'aime pas cela. »«
Renifle-le comme il faut, j'ai les mains propres. »«
Cela suffit, je n'aime pas cela. »
« Eh bien, mon cœur, moi j'en raffole, seulement pas sur mon dos. Comprends-tu cette allégorie, mon trésor ?»«
Je comprends, » dit-il.
« Alors, dorénavant, fais bien attention. Sois bien gentil. Entends-tu, mon chéri ? Voilà un rouble. Va, et prie pour moi jour et nuit. » Et le folliculaire s'en alla. Le général se mit à rire. Tous lui firent écho, sauf Irène, qui ne sourit même pas et jeta un sombre regard sur le narrateur. L'obligeant général secoua l'épaule de Boris. « Tu as inventé tout cela, mon très cher. Tu ne me feras pas croire que tu puisses menacer quelqu'un de ta canne. Tu n'en as même pas. C'est pour faire rire ces dames, pour dire quelque chose de plaisant. Mais il ne s'agit pas de ça. Je viens de dire qu'il faut retourner tout à fait en arrière. Comprenez-moi. Je ne suis pas ennemi de ce qu'on appelle le progrès, mais toutes ces universités, ces séminaires, ces écoles populaires, ces étudiants, ces fils de prêtres, ces roturiers, tout ce fretin, tout ce fond du sac, la petite propriété, pire que le prolétariat. » Le général débitait tout cela sur le ton le plus langoureux. « Voilà ce qui m'effraie. Voilà où il faut s'arrêter et arrêter les autres. » Il jeta de nouveau sur Litvinov un regard aimable. « Oui, il faut arrêter tout cela. N'oubliez pas que personne chez nous ne réclame rien, ne prétend à aucun de ses soi-disant droits. L'autonomie des communes, par exemple, est-ce que quelqu'un la souhaite ? Est-ce vous qui la désirez ? Est-ce vous, mesdames, qui ne vous gouvernez pas seulement vous-mêmes, mais faites encore de nous ce que vous voulez ?» Le beau visage du général s'éclaira d'un malin sourire. « Chers amis, pourquoi faire comme le lièvre qui se jette au-devant du danger en croyant l'éviter ? La démocratie est satisfaite de vous. Pour le moment, elle vous encense. Elle est prête à entrer dans vos vues. Mais c'est un glaive à deux tranchants. L'ancien système est meilleur, bien plus sûr. Ne laissez pas la racaille raisonner. Appuyez-vous sur l'aristocratie, qui seule est une force. Je vous certifie que les choses iront mieux. Quant au progrès, je n'ai absolument rien contre le progrès. Seulement, ne nous donnez pas d'avocats, de jurés. Ne touchez pas à la discipline militaire. Libre à vous, par ailleurs, de construire des ponts, des quais et des hôpitaux. Et je ne vois pas pourquoi les rues ne seraient pas éclairées au gaz. Ils ont mis le feu aux quatre coins de Pétersbourg. Voilà ce qu'ils appellent le progrès, s'écria l'irascible général. Je vois que tu es rancunier, lui dit le gros général en se dandinant. Tu ferais un excellent procureur général. Pour moi, avec Orphée aux enfers, le progrès a dit son dernier mot. Vous dites toujours des bêtises, cria d'une voix aigre la dame d'Arzama. Je ne suis jamais plus sérieux, madame, reprit le général avec encore plus d'emphase, que quand je dis des bêtises. C'est une phrase de monsieur Verdier, remarqua Irène à mi-voix. De la poigne et des formes, s'écria le robuste général. De la poigne, surtout. Ce qui peut se traduire en russe par « Sois poli, mais casse-lui la gueule ». Ah, oh, quel incorrigible gamin ! Fit l'indulgent général. Mesdames, veuillez n'en rien croire. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il se contente d'être le bourreau des cœurs. Non, Boris, commença Ratmirov après avoir échangé un regard avec sa femme. Plaisanterie à part, il y a ici de l'exagération. Le progrès est une manifestation de la vie sociale. Voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un symptôme qu'il importe d'étudier. Oui, opina le gros général en fronçant le nez. Il est connu que tu vises à l'homme d'État. Nullement. Qu'y a-t-il ici de politique? Mais il faut bien reconnaître la vérité. Boris recommença à caresser ses favoris et à fixer le vide.
La vie sociale est une chose très importante dans le développement du peuple, dans le destin, pour ainsi dire, d'une patrie. Valéria, interrompit Boris d'un ton sans réplique, il y a des dames ici. Je n'aurais pas cru cela de toi. Veux-tu donc faire partie d'un comité ?
Ils ont tous été interdits, grâce à Dieu,
s'empressa de faire observer l'irascible général, et il se remit à chanter. Deux gendarmes, un beau dimanche. Ratmirov approcha de son visage un mouchoir de batiste et se tut de bonne grâce. Le doucereux général répéta « Le gamin, le gamin !» Boris, se tournant vers une dame, sans baisser la voix ni changer d'expression, lui demanda « Quand elle couronnerait sa flamme ?» car il était amoureux d'elle éperdument et souffrait le martyre. Litvinov se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il était blessé dans sa fierté, dans son honnête et plébéienne fierté. Qu'y avait-il de commun entre lui, fils d'un infime fonctionnaire, et ces aristocrates militaires de Pétersbourg? Il aimait tout ce qu'il haïssait. Il haïssait tout ce qu'ils aimaient. Il le voyait trop clairement. Il le sentait de toutes les forces de son être. Il trouvait leur plaisanterie plate, leur ton insupportable, leur manière frelatée. Dans leur amabilité, perçait un mépris insultant. Et cependant, il semblait intimidé par eux, par ces hommes, ces ennemis. « Quelle sottise !» se disait-il. « Je les gêne, je leur parais ridicule. Pourquoi donc resterais-je ici ? Allons-nous-en. » La présence d'Irène ne pouvait l'arrêter. Elle n'éveillait en lui que des impressions pénibles. Il se leva et commença à prendre congé. « Vous vous en allez déjà ?» dit Irène. Mais après un moment de réflexion, elle n'insista pas et lui fit seulement promettre qu'il viendrait la voir. Le général Ratmirov lui rendit son salut avec la politesse qui le caractérisait, lui serra la main et le reconduisit jusqu'au bout de la terrasse. Litvinov avait à peine dépassé le coin de la première allée qu'il entendit des rires éclater. Ces rires ne s'adressaient pas à lui, ils étaient provoqués par l'apparition subite du si désiré monsieur Verdier, monté sur un âne, coiffé d'un chapeau tyrolien, affublé d'une blouse bleue. Mais Litvinov se crut la cause de cette gaieté. Le sang monta à ses joues et ses lèvres se serrèrent, comme s'il venait d'avaler de la coloquinte. « Quels gens méprisables » murmura-t-il, sans réfléchir que quelques instants passés en leur compagnie ne lui donnaient pas encore le droit de s'exprimer aussi sévèrement. C'était dans ce monde qu'était tombée Irène. Elle y vivait, elle y régnait. C'était pour ce monde qu'elle avait sacrifié sa dignité, foulé les meilleurs sentiments de son cœur. Apparemment, il fallait qu'il en fût ainsi. Elle ne méritait pas de meilleur destin. Comme il se réjouissait qu'elle n'ait pas eu l'idée de l'interroger sur ses intentions, ses projets. Il aurait été forcé de s'expliquer devant ces gens, en leur présence. « Pour rien au monde, jamais !» répétait-il en aspirant l'air frais de la montagne. Et c'est presque en courant qu'il regagna Baden. Il pensait à sa fiancée, à sa bonne et douce Tatiana. Elle ne lui en paraissait que plus pure, candide et noble. Avec quelle ineffable jouissance il se rappelait ses traits, ses paroles, ses moindres habitudes. Avec quelle impatience il attendait son retour. Cette marche rapide calma ses nerfs. Rentré chez lui, il se mit devant une table, prit un livre, puis le laissa tomber et se mit à rêver. Que lui arrivait-il ? Rien, mais... Irène, cette rencontre lui sembla tout à coup étonnante, étrange, inouïe. Était-ce possible ? Il l'avait revue, il avait parlé à cette même Irène. Et pourquoi n'avait-elle pas ce ton odieux qui distinguait tous les autres ? Pourquoi semblait-elle ennuyée et ne supportait qu'avec peine sa situation ?
Elle était dans leur camp, mais n'était pas un ennemi. Qui avait pu l'engager à l'accoster de si bonne grâce, à l'inviter chez elle? Litvinov releva la tête. « Oh, Tatiana !» s'écria-t-il hors de lui. « Seule, tu es mon ange, mon bon génie. Je n'aime que toi, et je t'aimerai toujours. Je n'irai pas chez Irène. Que Dieu la bénisse, qu'elle s'amuse avec ses généraux. » Et il reprit son livre. Chapitre 21. Litvinov reprit son livre, mais il lui fut impossible de lire. Il sortit, se promena un peu, écouta la musique, regarda jouer, revint chez lui, essaya encore de lire, sans que cela lui réussît mieux. Le temps lui parut singulièrement long. Vint Pitchalkin, le brave juge de paix, qui resta 3 petites heures. Il parla, discuta, posa des questions, toucha alternativement aux sujets les plus élevés et aux plus pratiques, répandant finalement un tel ennui que le malheureux Litvinov fut sur le point de hurler de désespoir. Pour engendrer une torpeur mortelle, glaciale, sans issue ni remède, Pitchalkin n'avait pas d'égal, même parmi les profonds moralistes connus pour posséder ce talent au suprême degré. Son crâne lisse, ses yeux clairs et insignifiants, son nez si triste dans sa régularité, inspiraient un abattement involontaire. Sa voix de baryton, lente, endormie, semblait avoir été créée pour énoncer avec conviction et mesure des sentences comme celle-ci. 2 et 2 font 4, et non 5 ou 3. L'eau est humide, la bienfaisance est louable. Pour des opérations financières, le crédit est aussi indispensable à l'État qu'au simple particulier. Et malgré cela, c'était le meilleur des hommes. Mais tel est le destin de la Russie. Les meilleurs y sont assommants. Pitchalkin se retira. Il fut remplacé par Bindasso, qui lui demanda effrontément 100 florins. Litvinov les lui prêta. Pourtant, loin de s'intéresser à Bindasso, il se sentait pour lui de la répugnance, et il pouvait être certain de ne plus revoir cet argent, alors qu'il en avait besoin. « Pourquoi donc le donna-t-il ? » demandera le lecteur. « Peut-être trouvera-t-il une réponse à cette question dans sa propre vie. Que de fois chacun de nous n'a-t-il pas agi de même ?» Bindasso ne se donna pas la peine de remercier Litvinov, se fit apporter un grand verre d'Affenthaler, vin rouge de Baden, et sortit, sans s'essuyer les lèvres, martelant le sol de ses lourdes bottes. Quel dépit ne ressentit pas Litvinov en voyant la large nuque de l'insolence éloignée. Le soir, il reçut une lettre de Tatiana, qui l'informait que, suite à une indisposition de sa tante, elle ne pourrait arriver à Baden avant 5 ou 6 jours. Cette lettre lui causa une forte contrariété et augmenta son désappointement. Il se coucha de bonne heure dans de mauvaises dispositions d'esprit. Le lendemain, dès l'aurore, sa chambre s'emplit de ses compatriotes. Bambaïev, Vorochilov, Pitchalkin, 2 officiers, 2 étudiants de Heidelberg arrivèrent à la fois et ne s'en allèrent que vers l'heure du déjeuner, quoiqu'ils eussent bien vite dit tout ce qu'ils avaient à dire, et s'ennuyassent visiblement. Ils ne savaient littéralement que devenir. Ils commencèrent par parler de Goubariov, qui venait de repartir à Heidelberg et qu'il fallait rejoindre. Puis ils philosophèrent, effleurant la question polonaise. Vint ensuite le tour des maisons de jeu et des anecdotes scandaleuses. La conversation s'engagea enfin sur les hommes remarquables par leur force physique, leur embonpoint et leur voracité. Les plus vieilles histoires refirent surface. On cita le diacre qui avait fait le pari d'avaler 33 harengs, le soldat qui rompait sur son front un air de bœuf. Ce fut à qui en compterait le plus.
Pitchalkin lui-même dit, en bâillant, qu'il avait connu en Ukraine une paysanne qui pesait, le jour de sa mort, plus de 600 livres, et un propriétaire qui déjeunait de 3 oies et d'un esturgeon. Bambaïev ne manqua pas l'occasion de tomber en extase. Il déclara qu'il était lui-même de consommer un mouton entier, pourvu que les sauces fussent bonnes. Et Voroshilov avança quelque chose de si ridicule que tous se turent, se regardèrent dans le blanc des yeux, prirent leur chapeau et se retirèrent. Resté seul, Litvinov voulut s'occuper. Mais la tête lui tournait. Il ne put rien faire et perdit encore sa soirée. Le lendemain matin, il s'apprêtait à déjeuner lorsqu'il entendit frapper à sa porte. « Mon Dieu » pensa-t-il, « voici encore un de mes amis d'hier. » Et ce ne fut pas sans émotion qu'il dit « Herein !» La porte s'ouvrit doucement et Potougine entra dans la chambre. Litvinov s'en réjouit fort. « Voilà qui est aimable !» dit-il en serrant avec force la main du visiteur inattendu. « J'aurais été vous voir si vous aviez voulu me dire où vous demeurez. Asseyez-vous, je vous prie, posez votre chapeau. Asseyez-vous. » Potougine ne répondait pas à ces affectueuses paroles. Il demeurait debout au milieu de la chambre, souriant et secouant la tête. L'accueil cordial de Litvinov l'avait visiblement touché, mais il y avait dans l'expression de son visage quelque chose d'embarrassé. « Pardonnez-moi, » balbutia-t-il. « Assurément, c'est toujours avec plaisir, mais on m'a dépêché vers vous. »« Voulez-vous dire, » dit d'un ton de reproche Litvinov, « que vous ne seriez pas venu sans cela ?»« Oh non, mais peut-être ne me serais-je pas décidé à vous déranger aujourd'hui si on ne m'avait prié de passer chez vous. En un mot, j'ai pour vous une commission. » « Puis-je savoir de qui ?»« D'une personne qui vous est connue, d'Irène Pavlovna Ratmirov. Vous lui avez promis il y a 3 jours d'aller la voir, et vous n'en avez rien fait. » Litvinov regarda avec surprise Potougine. « Vous connaissez Madame Ratmirov ?»« Comme vous voyez. »« Et vous la connaissez intimement ?» « Je suis jusqu'à un certain point de ses amis. » Litvinov se tut. « Permettez-moi de vous demander, » reprit-il, « si vous savez pourquoi Irène Pavlovna désire me voir. » Patougine s'approcha de la fenêtre. « Je le sais jusqu'à un certain point. Autant que j'en puis juger, elle a été très heureuse de vous revoir et voudrait renouer de précédentes relations. » « Renouer ?» répéta Litvinov. « Excusez mon indiscrétion, mais permettez que je vous pose encore une question. Savez-vous de quelle nature étaient ces relations ?»« À vrai dire, je l'ignore, mais je présume, » ajouta Potougine en se tournant inopinément vers Litvinov avec une expression affectueuse. « Je présume qu'elles étaient excellentes, car Irène Pavlovna a fait de vous un grand éloge. » Et j'ai dû lui donner ma parole que je vous amènerai. Viendrez-vous ?
Quand ?
Maintenant, tout de suite.
Litvinov écarta les bras. Irène Pavlovna, continua Patougine, suppose que, comment vous dire cela, que ce milieu dans lequel vous l'avez vu l'autre jour ne doit pas vous être fort sympathique. « Mais elle m'a chargé de vous dire que le diable n'est pas aussi noir qu'on le dépeint. »«
Hum, cette comparaison s'applique-t-elle précisément à ce milieu ?»«
Oui, et en général. »«
Hum, mais vous-même, Sozont Ivanitch, quelle est votre opinion sur le diable ?»«
Je pense, Grégoire Mikhaïlitch, qu'il n'est pas, en tout cas, tel qu'on le dépeint. »«
Est-il meilleur ?»
Pire ou meilleur, il est difficile d'en décider, mais il n'est pas ce qu'on dit.
Eh bien, partons-nous.
Reposez-vous d'abord un peu. Je vous avoue qu'il me paraît toujours un peu étrange.
Oserais-je vous demander ce qui vous paraît étrange?
Comment avez-vous pu devenir l'ami d'Irène Pavlovna ?
Potouguine reprit modestement. Avec ma figure, ma situation dans le monde, c'est en effet invraisemblable. Mais vous vous en souvenez, Shakespeare a écrit « Il y a bien des choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'a pas rêvé votre philosophie. » Prenons une métaphore. Voici un arbre. Il n'y a pas un souffle de vent. Il est impossible qu'une des feuilles de la branche inférieure touche l'une de celles de la branche supérieure. Mais que vienne l'orage ? Tout se confond et les deux feuilles peuvent se toucher.
Ah ! Il y a donc eu des orages.
Je crois bien, comme si on pouvait vivre sans cela. Mais laissons de côté la philosophie. Il est temps de partir.
Litvinov hésitait toujours.
« Seigneur ! » s'écria Potouguine avec une grimace comique. « Comme sont devenus aujourd'hui les jeunes gens ! Une femme ravissante les appelle, leur dépêche un messager, et ils font des histoires. C'est une honte, monsieur ! Une honte ! Voici votre chapeau, et Vorswärts, comme disent nos amis les bouillants allemands. »
Litvinov demeura encore un moment dans l'incertitude, mais finit par prendre son chapeau et sortit avec Potouguine.
Chapitre 12. Ils se dirigèrent vers un des plus confortables hôtels de Baden et demandèrent la générale Ratmirov. Le Suisse prit d'abord leur nom, puis répondit « Die Frau Fürstin ist zu Hause ». Il les précéda dans l'escalier, frappa à la porte et les annonça. « Die Frau Fürstin » les reçut immédiatement. Elle était seule. Son mari était allé à Karlsruhe pour voir un dignitaire russe des plus influents qui y était de passage. Irène était assise à une petite table et travaillait à un canevas, lorsque Potouguine et Litvinov franchirent sa porte. Elle s'empressa de mettre son ouvrage de côté, repoussa la petite table, se leva. Une vive satisfaction se peignait sur son visage. Elle portait une robe du matin. Les contours de ses épaules et de ses bras se dessinaient gracieusement sous une étoffe légère. Ses cheveux, négligemment tressés, tombaient à demi sur son cou. Elle jeta sur Potouguine un rapide regard, chuchota un « merci » et, tendant la main à Litvinov, elle lui reprocha aimablement d'oublier une vieille amie. Litvinov voulut s'excuser. « c'est bien », se hâta-t-elle de dire, et après l'avoir forcé à se débarrasser de son chapeau, elle le fit asseoir. Potouguine s'assit également, mais prétexta aussitôt une affaire pressante pour se retirer, en promettant de revenir après dîner. Irène lui jeta de nouveau un rapide regard, lui fit un signe de tête amical, mais ne le retint pas. Dès qu'il fut sorti, elle se tourna vivement vers Litvinov. « Grégoire Mikhaïlitch, lui dit-elle en russe, avec son timbre doux et argenté. « Nous voici enfin seuls. Je puis vous dire que je suis bien contente de notre rencontre, parce qu'elle me donne la possibilité. » Et disant cela, elle le regardait droit dans les yeux. De vous demander pardon. » Litvinov frissonna. Il ne s'attendait pas à une aussi brusque attaque. Il ne prévoyait pas qu'elle amènerait si résolument la conversation sur le passé. « Pardon ? À quel propos ? » dit-il en balbutiant. Irène rougit. « À quel propos ? Vous le savez bien ! » reprit-elle en se détournant légèrement. « J'ai été coupable à votre égard. » « Grégoire Mikhaïlitch, quoique, sans doute, telle était ma destinée. » Litvinov se souvint de sa lettre. « Je ne me repens pas, il est trop tard pour cela, mais vous ayant rencontré à l'improviste, je me suis dit que nous devions absolument redevenir des amis, absolument, et j'aurais beaucoup de peine si cela n'avait pas lieu. » Voici pourquoi il me semble que nous devons nous expliquer une fois pour toutes, afin qu'à l'avenir, il n'y ait plus entre nous aucune gêne. Vous devez m'assurer que vous me pardonnez, Sans cela, je supposerais que vous me conservez de la rancune.
Voilà.
C'est probablement une fatuité de ma part, car vous avez sans doute depuis longtemps tout oublié. Mais c'est égal. Dites-moi que vous m'avez pardonné. »
Irène débita cette harangue sans reprendre haleine, et Litvinov remarqua que des larmes, de vraies larmes, brillaient dans ses yeux.
« De grâce, Irène Pavlovna, » s'empressa-t-il de lui répondre. « Pourquoi vous excuser, implorer mon pardon? Le passé a fui comme l'eau, et il ne me reste qu'à être étonné de ce qu'au milieu de l'éclat qui vous entoure, vous ayez encore pu conserver le souvenir de l'obscur compagnon de votre jeunesse.
« Cela vous surprend ?» dit à voix basse Irène.
« Cela me touche, » reprit Litvinov, « parce que je ne pouvais m'imaginer...
« Vous ne m'avez toujours pas dit que vous me pardonniez, » interrompit Irène.
« Je me réjouis sincèrement de votre bonheur, Irène Pavlovna. Je vous souhaite toutes les félicités possibles.
Et vous ne vous souvenez plus du mal?
Je ne me souviens que des heureux moments que vous m'avez offerts autrefois. »
Irène lui tendit ses deux mains. Litvinov les serra et ne les relâcha pas tout de suite. Ce seul attouchement emplit son cœur d'un trouble depuis longtemps oublié. Irène le regardait de nouveau en face, mais cette fois en souriant. Et de son côté, il eut pour la première fois le courage de l'observer avec attention. Il reconnut ses traits qui lui avaient été si chers, ses yeux si profonds avec leurs cils étranges, la façon dont ses cheveux étaient plantés sur son front, son habitude de tordre un peu les lèvres en souriant et d'imprimer à ses sourcils un mouvement à la fois drôle et charmant. Comme elle avait embelli! Quelle grâce, quelle force dans ce jeune corps féminin! Ni rouge, ni poudre, aucun fard sur ce pur et frais visage. Oui, elle était devenue une beauté. Litvinov se mit à rêver. Il la regardait toujours, mais ses pensées étaient déjà loin. Irène le remarqua. « Allons, voilà qui est bien, » dit-elle à voix haute. « Ma conscience est en repos à présent. » Et je puis satisfaire ma curiosité. Votre curiosité ? Répéta Litvinov sans comprendre.
Oui, je tiens à savoir ce que vous avez fait, quels sont vos plans. Je veux tout savoir. Où, quand, comment. Tout, absolument tout. Et vous devez me dire la vérité, car je vous préviens que je ne vous ai pas perdu de vue, autant que cela m'a été possible.
« Vous ne m'avez pas perdu de vue ?
Vous ? Là-bas, à Pétersbourg ?
Au milieu de l'éclat qui m'entourait, comme vous venez de le dire, c'est précisément cela. Nous reviendrons sur cet éclat. Maintenant, racontez-moi tout dans le détail et prenons notre temps. Personne ne nous dérangera. Ce sera merveilleux !» ajouta-t-elle en s'installant gaiement dans un fauteuil.
« Eh bien, commencez !»
Avant de raconter quoi que ce soit, je dois vous remercier, » dit Litvinov.
« Pourquoi ? » ?»«
Pour le bouquet qui s'est trouvé dans ma chambre. »«
Quel bouquet ? Je ne sais rien. »«
Comment ? » ?»«
Je vous le répète, je ne sais rien, mais j'attends votre récit. »«
Ah, comme Potouguine a bien fait de vous amener !»
Litvinov ouvrit les oreilles.
« Vous connaissez depuis longtemps ce monsieur Potouguine ? » lui demanda-t-il.
« Depuis longtemps. Mais racontez !»«
Et vous le connaissez intimement ?»«
Oh oui !» soupira Irène. « Cela tient à des circonstances particulières. Vous avez sûrement entendu parler d'Élise Bielski, morte si tragiquement il y a 2 ans. Mais j'oublie que vous ne connaissez pas nos histoires, et je vous en félicite. » « Oh, quelle chance! Voici enfin un homme, un être vivant, qui ne sait rien de ce qui se passe parmi nous. Et on peut s'entretenir avec lui en russe, dans un mauvais russe, mais toujours préférable à cet éternel, insipide, insupportable jargon français de Pétersbourg. Potouguine, dites-vous, connaissait cette... Il m'est pénible de me rappeler cela, interrompit encore Irène. Élise était ma meilleure amie à l'Institut, et à Pétersbourg nous nous voyions sans cesse, au château. Elle me confiait tous ses secrets. Elle était très malheureuse, elle a beaucoup souffert. Potouguine s'est admirablement conduit dans cette histoire, comme un vrai gentleman. Il s'est dévoué. C'est alors seulement que je l'ai apprécié. Mais nous voici à nouveau loin de notre sujet. J'attends votre récit, Grégoire Mikhaïlitch.
Mon récit ne vous intéressera guère, Irène Pavlovna.
Ceci n'est plus votre affaire.
Souvenez-vous, Irène Pavlovna, que nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans, 10 longues années. Combien d'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps ?
Pas seulement de l'eau, répliqua-t-elle avec amertume. C'est pourquoi je veux vous écouter.
Je ne sais d'ailleurs par où commencer.
Par le commencement, du jour que je suis partie pour Pétersbourg. Vous avez quitté Moscou. Savez-vous que depuis cette époque, je ne suis jamais revenue à Moscou ?
Vraiment ?
C'était d'abord impossible. Puis quand je me suis mariée...
Depuis quand êtes-vous mariée ?
Depuis 4 ans.
Vous n'avez pas d'enfant ?
Non, répondit-elle sèchement. Litvinov se tut un moment.
Et jusqu'à votre mariage, vous avez toujours vécu chez ce... Comment l'appelez-vous ? Chez ce comte Reisenbach ?
Irène le considéra attentivement. Elle semblait vouloir comprendre le motif de cette question.
Il ignorait donc tout.
Non, répondit-elle enfin.
Par conséquent, vos parents, je ne vous en ai pas encore parlé, ils sont
bien portants.
Ils habitent comme auparavant à Moscou ?
Comme auparavant.
Et vos frères, vos sœurs ?
Ils vont bien, je les ai tous placés.
Ah, fit Litvinov en regardant Irène de côté. En réalité, Irène Pavlovna, ce n'est pas moi, c'est vous qui auriez beaucoup à m'apprendre, si seulement...
Il ne savait plus comment achever sa phrase. Irène, approchant ses mains de son visage, se mit à faire tourner son anneau nuptial autour de son doigt.
« Je ne m'y refuse pas, fit-elle à la fin. Je le veux bien, un jour, mais c'est d'abord votre tour. Parce que, voyez-vous, quoique je vous ai suivi de loin, je ne sais pas grand-chose de vous, tandis que vous avez sûrement assez entendu parler de moi. N'est-il pas vrai ? Ne me le cachez pas. »
Vous occupiez, Irène Pavlovna, une place trop élevée dans le monde pour être à l'abri de tout commentaire, particulièrement en province, où l'on colporte toute espèce de bruit.
Vous y avez ajouté foi ? De quel genre était-il ?
Je vous avoue qu'il ne venait que très rarement jusqu'à moi. Je vivais retiré.
Vous avez cependant été en Crimée, dans les milices.
Vous avez su cela ?
Comme vous voyez, je vous ai dit que je vous surveillais.
Litvinov fut de nouveau déconcerté.
« Pourquoi donc, reprit-il à mi-voix, entreprendrai-je de vous raconter ce que vous savez déjà ?»«
Pour satisfaire mon désir, Grégoire Mikhaïlitch. »
Litvinov baissa la tête et commença à raconter, un peu confusément, ses très ordinaires aventures. Souvent il s'arrêtait, demandant grâce du regard, mais elle exigeait implacablement la fin de son récit. Et ses cheveux rejetés derrière les oreilles, appuyés sur le bras de son fauteuil, elle semblait écouter chaque mot avec un redoublement d'attention. Cependant, si quelqu'un avait suivi le jeu de sa physionomie, il se serait facilement aperçu qu'elle n'écoutait pas du tout ce que lui débitait Litvinov, et qu'elle était plongée dans une profonde méditation. L'objet de cette méditation n'était nullement Litvinov, quoiqu'il se troublât et rougît sous le feu de son regard. Toute une existence se déroulait devant elle, et ce n'était pas celle de Litvinov,
mais bien la sienne. »
Litvinov se tut avant d'en avoir terminé, sous l'impression d'un sentiment de plus en plus pénible. Cette fois, Irène ne dit rien. Elle ne lui demanda plus de continuer. Se couvrant les yeux de la main, elle s'affaissa dans son fauteuil et demeura sans mouvement. Litvinov attendit un peu. Puis, se souvenant que sa visite avait duré plus de 2 heures, il chercha du regard son chapeau, lorsqu'on entendit dans la chambre voisine le craquement de bottes vernies. Valérien Vladimirovitch Ratmirov apparut, répandant autour de lui le parfum raffiné qui ne le quittait pas. Litvinov se leva et échangea un salut avec l'aimable général. Irène laissa lentement retomber la main qui couvrait son visage et, regardant son mari, lui dit en français « Ah, vous voilà déjà revenu? Quelle heure est-il donc ?»«
Près de 4 heures, ma chère amie, et tu n'es pas encore habillée. La princesse nous attendra. »
Se tournant cérémonieusement du côté de Litvinov, il ajouta avec le ton courtois qui lui était habituel « Il paraît qu'un aimable visiteur vous a fait oublier l'heure qu'il était. » Le lecteur nous permettra de lui communiquer ici quelques renseignements sur le général Ratmirov. Son père procédait indirectement d'un grand seigneur du temps d'Alexandre Ier et d'une actrice française. Le grand seigneur avait poussé son fils dans le monde, mais ne lui avait pas laissé de fortune. Et ce fils lui-même, le père de notre héros, n'avait pas eu le temps de s'enrichir. Il était devenu colonel et maître de police quand la mort vint le surprendre. Une année avant de mourir, il avait épousé une jeune et riche veuve qui était venue se mettre sous sa protection. Le fils du maître de police et de la veuve, Valérien Ratmirov, avait été placé, par protection spéciale, dans le corps des pages, et il attira bientôt sur lui l'attention de ses chefs, moins par ses succès dans les sciences que par sa tenue martiale et son inaltérable soumission. Il entra dans la garde et fit une carrière brillante grâce à la modeste aménité de son caractère, à son agilité au bal, à la façon élégante dont il montait, aux parades, des chevaux que ses camarades lui prêtaient. Grâce enfin à je ne sais quel art singulier de la déférence, à une politesse familièrement respectueuse envers ses supérieurs, à son empressement, caressant, insinuant, auquel venait se mêler un tout petit grain de libéralisme. Ce libéralisme ne l'empêcha pas de faire rosser à mort 50 paysans dans un village de Biélorussie qu'il avait été chargé de mettre au pas. Il jouissait d'un extérieur attrayant et singulièrement juvénile. Blanc et rose, souple et galant, il avait de grands succès dans les salons. Les douairières en raffolaient. Prudent par habitude, silencieux par calcul, le général Ratmirov, semblable à l'abeille laborieuse qui extrait des sucs précieux des plus vilaines fleurs, ne cessait de fréquenter le grand monde. Et sans instruction, sans morale, mais avec du flair, de l'esprit de conduite, et surtout avec l'inébranlable résolution d'aller aussi loin et aussi haut que possible, il voyait tous les obstacles tomber sur son chemin. Litvinov eut un sourire forcé. Irène haussa seulement les épaules. « Eh bien, » dit-elle d'un ton froid, « avez-vous vu le comte ?»«
Comment donc ? Je l'ai vu. Il m'a chargé de te saluer. »
« Ah, toujours aussi bête, votre protecteur ?» Le général Ratmirov ne répondit rien. Il se contenta d'accorder à ce hâtif jugement féminin le léger sourire que les saillies enfantines provoquent chez l'homme mûr.
« Oui, ajouta Irène, votre comte est particulièrement bête. J'ai eu assez souvent l'occasion de m'en apercevoir. »
« C'est vous-même, » remarqua entre ses dents le général, « qui m'avez envoyé auprès de lui. » Puis, se tournant vers Litvinov, il lui demanda en russe s'il prenait les eaux de Baden. « Je suis, grâce à Dieu, bien portant, » répondit Litvinov. « C'est ce qu'il y a de mieux, » continua le général en souriant d'un air gracieux. « On ne vient généralement pas à Baden pour se soigner. Cependant, ses eaux sont tout à fait bonnes, je veux dire efficaces. Et celui qui souffre comme moi d'une toux nerveuse... » Irène se leva d'un coup. « Nous nous reverrons, Grégoire Mikhaïlitch, et je l'espère, bientôt, » dit-elle en français, coupant dédaigneusement la parole à son mari. « Maintenant je suis obligée de faire ma toilette. Cette vieille princesse est insupportable avec ses éternelles parties de plaisir, où l'on ne trouve que de l'ennui. » « Vous êtes aujourd'hui bien sévère pour tout le monde, » marmotta son mari en gagnant sa chambre. Litvinov se dirigeait vers la porte. Irène l'arrêta. « Vous m'avez tout raconté, » dit-elle. « Vous m'avez pourtant caché le plus important. »«
Qu'est-ce ?
On dit que vous vous mariez. » Litvinov rougit jusqu'aux oreilles. C'était intentionnellement qu'il n'avait pas parlé de Tatiana. Il lui était fort désagréable qu'Irène eût découvert ses intentions de mariage, ainsi que son désir de les lui cacher. Il ne savait que répondre, tandis que les yeux d'Irène ne le quittaient pas. « Oui, je me marie, » dit-il enfin, et il se retira aussitôt. Ratmirov rentra dans la chambre. « Est-ce que tu ne t'habilles pas ? » demanda-t-il. « Elle est seule, j'ai mal à la tête. »
Mais la princesse...
Irène toisa son mari les pieds à la tête, lui tourna le dos brusquement et entra dans son cabinet.